Lors de la séance introductive, vais commencer de poser les enjeux pour aujourd'hui que soulève la philosophie morale, que je résume dans la question qui est un petit peu l'intitulé du fil conducteur thématique de cette année, vivre conformément à ses pensées ou comment concevoir une cohérence ou l'exigence d'une cohérence entre pensée et acte, pensée et agir. Ce qui renvoie directement à ce qu'était profondément, et ça on va... Au fond, la philosophie antique, la philosophie grecque antique, qui était conçue, pour reprendre la phrase, la formule de Pierre Hadot, sur lequel je reviendrai de nombreuses fois, la philosophie conçue comme un mode de vie. Un mode de vie, c'est-à-dire un style de vie, comme dirait Marielle Massé aujourd'hui. Et donc, c'est cela qui constitue notre questionnement de ces séances. Alors, pour montrer l'enjeu actuel de la question, avant de plonger dans la Grèce antique et notamment la période hellénistique, je préciserai après de quoi il s'agit pour tout le monde. Donc avant de plonger dans le lointain passé qui revêt une actualité en fait saisissante, j'avais démarré par une réflexion tout à fait contemporaine à partir d'un film qui a eu la Palme d'Or de Cannes en 2017 et qui s'appelle The Square, le carré, qui est ce film, donc, au fond, très intéressant, de ce réalisateur suédois qui s'appelle Ruben Ost. Donc, ça s'écrit O-tréma, je rappelle, S-T et Lund, L-U-N-D. C'est quoi ? Ruben Ostlund, voilà. Alors, je vais repartir de ce film, parce que la dernière fois, nous n'avions pas tout abordé, et ça permettra de resituer, pour ensuite, le plus vite possible, nous replonger dans la Grèce antique, et notamment la période hellénistique, dont on mettra en évidence combien, par-delà les siècles, il y a des similitudes de questions, d'enjeux avec notre période actuelle. Alors, je résume rapidement The Square à partir d'une note d'intention écrite par le réalisateur et dont je suivais le fil. Et, alors, cette note d'intention de Ruben Ostlund pose vraiment la même question que la question de notre atelier. C'est-à-dire la question de la cohérence entre mode de vie et valeurs et systèmes de pensée affirmés et discours philosophiques et moraux affirmés, quoi. À travers un personnage, je le rappelle, ce film tourne autour d'un personnage qui s'appelle Christian, qui est un honnête homme, a priori, hein, un brave gars, qui est conservateur d'un musée et qui lance une grosse exposition, qui est une installation pour son musée d'art contemporain, qui est... L'installation s'intitule justement « The Square ». C'est de l'art conceptuel, en fait, comme on dit aujourd'hui. Donc, c'est un carré, un grand carré de je ne sais plus combien de mètres de côté, 4 ou 5 mètres de côté, qui est dessiné au sol et qui est un carré de bienveillance. C'est-à-dire que tout le monde qui rentre dans ce carré a le devoir d'être bienveillant et d'aider... quiconque demande de l'aide d'une manière ou d'une autre, quoi. C'est un espace voilà, de coexistence pacifique, de société fraternelle. Et le problème, c'est que ce réalisateur qui tient beaucoup à cette installation veut la faire connaître. Et donc, il y a la dérive marketing qui va jouer. Il fait appel à une agence de communication avec des jeunes qui en veulent, très cyniques, etc. Le directeur de l'agence, cheveux longs, amène son bébé, qui, qui n'arrête pas de brailler. On est vraiment dans des gens très branchés, très, très in. Voilà. Mais ça n'empêche qu'ils sont l'illustration de notre monde de communication, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement cyniques. Et donc, ils convainquent finalement le conservateur du musée de faire appel à une campagne, de concevoir une campagne de communication à partir d'un film qui joue complètement sur le cynisme en arguant du fait que si on présente le sens de l'exposition comme ça, ça va faire trop gentil, bisounours, comme on dit aujourd'hui en français, et que ça ne va pas marcher. Donc il faut quelque chose de très percutant. Donc pour finir, je ne vais pas tout raconter pour ceux qui n'ont pas vu le film. L'espèce de vidéo qui va passer, on voit un jeune enfant qui va exploser par une bombe.
Une
petite fille, oui, qui va exploser comme si elle était une djihadiste d'une certaine manière, qui se fait sauter, quoi, dans le carré. Et donc ça fait scandale, c'est le contre. Une crise de conscience, une crise morale très forte de Christian, le conservateur, qui s'interroge et qui va finir par métaphore du fait que notre société, ses lois marketing, ses lois communicationnelles qui l'emportent et qui ont comme impératif de faire le plus de bruit possible, ce courant dominant de notre société, en fait, emporte les bonnes intentions si on n'a pas un travail personnel sur soi, disons, suffisamment important, quoi. C'est-à-dire, ça pose la question de comment résister à ce flux dominant qui nous amène à avoir des conduites qui sont totalement contradictoires avec nos discours, y compris nos discours humanitaires, etc. Alors, ce film s'appuie aussi en arrière-plan, et la note d'intention du film l'explicite très bien, s'appuie aussi sur des expériences de psychologie sociale qui sont bien connues, notamment la fameuse expérience de la soumission à l'autorité de Milgram, qui a fait l'objet d'un film d'ailleurs qui s'appelle I Comicars. Voilà. Et d'autres expériences qu'il cite dans la note d'intention, des expériences de psychologie sociale, l'expérience du bon samaritain aussi, qui montre qu'en réalité, même les personnes qui apparemment ont les meilleures intentions du monde affichées, peuvent avoir des comportements qui sont complètement contradictoires et incohérents par rapport à leurs bonnes intentions. Et donc, ça pose la question vraiment morale, de l'exigence morale, de la conformité de nos paroles et de nos actes, qui est au cœur de notre questionnement cette fois-ci. Voilà. Donc, je n'avais pas terminé, je ne vais pas relire toute la note d'intention qui est assez longue. Vous l'aurez. Mais je poursuis la lecture de là où on en était. Et puis donc un texte qui est très intéressant, très philosophique, écrit par le réalisateur. Hein. Alors, mais en même temps, c'est sur le plan social, donc Christian, le conservateur, un véritable caméléon, qui sait aussi jouer son rôle éminent dans l'institution et cerner les attentes des mécènes, visiteurs, artistes, etc. Alors ça pose une question centrale du fonctionnement social, du fonctionnement de notre société, et c'est une question qui avait été extrêmement bien analysée par ce grand philosophe social, sociologue, qui s'appelle Erving Goffman, G-O-2-F-M-A-N, qui est un sociologue américain, alors qui est mort maintenant il y a bien une trentaine d'années, si vous voulez, qui a vécu essentiellement après la Seconde Guerre mondiale, voilà, et qui est un des piliers de ce qu'on a appelé l'école de Chicago, ou en d'autres termes plus techniques, qui est un des inventeurs de ce courant de sociologie qui me paraît le plus intéressant, qui s'intitule l'interactionnisme symbolique. Interactionnisme symbolique, alors, en réalité, ce concept cache des choses assez simples à comprendre et que soulève ce passage de la note d'intention. Qu'est-ce qui fait que c'est un caméléon parce qu'il sait jouer son rôle éminent en cernant les attentes de son environnement. Qu'est-ce qui est en jeu? Ben, Goffman nous apporte la réponse à travers toute une série de livres de lui, notamment Les rites d'interaction. Également un livre majeur de Goffman qui fait deux volumes, qui s'intitule La mise en scène de la vie quotidienne. Et Goffman aussi a écrit un autre livre qui est un peu plus particulier, qui s'appelle Asile, où il s'intéresse au fonctionnement de l'institution psychiatrique. Et Asile a inspiré un film que sûrement beaucoup d'entre vous ont vu ou connaissent en tout cas de réputation, qui s'appelle Vol au-dessus d'un nid de coucou, avec cet exploit extraordinaire de Nicholson. Alors, de quoi s'agit-il? Notre société, mais c'est peut-être vrai, y compris dans l'Antiquité, toute société probablement, fonctionne comme un théâtre où chacun tient des rôles en fonction des situations sociales dans lesquelles il est plongé. C'est là qu'il s'avère qu'on a un moi social pluriel, d'ailleurs, le côté caméléon, parce que selon les situations dans lesquelles on est, les situations sociales, les situations interactionnelles, justement, je préciserai le terme, on peut tenir un rôle différent. D'ailleurs, je prends souvent cet exemple que tout le monde peut faire dans l'expérience quotidienne. Vous connaissez quelqu'un assez bien uniquement dans un type de situation, par exemple professionnel. Cette personne, vous ne la voyez que dans ce cadre-là. Vous vous construisez une image de cette personne parce qu'elle tient un certain rôle dans cette situation professionnelle. Et puis un jour, par hasard, vous la découvrez dans une autre situation qui n'a plus rien à voir. Par exemple, vous le découvrez en famille, avec les enfants, etc., habillé totalement différemment. Vous échangez deux mots et vous êtes surpris parce que cette personne vous apparaît complètement étrangère à la personne que vous connaissez habituellement. Parce que la situation n'est pas la même, donc elle est dans un autre rôle, elle est dans un autre personnage, et du coup, ce personnage différent vous apparaît complètement étranger. Donc il y a un effet de surprise. Cette expérience banale vous montre effectivement ce côté caméléon que soulève parfaitement Goffman, où la vie quotidienne en société, c'est un ensemble de situations théâtrales où on est appelé à jouer des rôles. Alors, le rôle qu'on joue, selon les situations, comment se définit-il? À travers des interactions, dit Goffman, c'est-à-dire les interactions, c'est le jeu qui se joue entre soi et l'autre en face de soi, ou les autres en face de soi, et ses interlocuteurs. Et symbolique, pourquoi interaction symbolique? Parce que essentiellement, ce sont des interactions verbales qui passent par le langage, parlé, mais plus largement par tous les langages. C'est-à-dire que ce sont des interactions verbales, mais aussi des interactions langagières qui peuvent emprunter d'autres langages que le langage verbal, c'est les langages non-verbaux. C'est quoi les langages non-verbaux? C'est les expressions du visage, les postures du corps, décontractées, tendues, toutes les postures du corps corporel, la gestuelle, les postures du corps, les expressions du visage, la vêture, hein, l'attitude vestimentaire. Voilà, tout cela, c'est les langages non-verbaux. Et ça renvoie au plan symbolique. C'est ce qu'on appelle le symbolique, qui délivre un message. Donc voilà ce que sont les interactions symboliques. Donc on est toujours dans des situations interactionnelles avec autrui. Et alors, comment se jouent ces situations interactionnelles? Eh bien, le rôle et le personnage qu'on va jouer, comme dans un théâtre, correspond à ce qu'on imagine être l'attente de l'autre à son égard. Bah, c'est très clair, et d'ailleurs, Pôle emploi apprend ça aux gens. Par exemple, dans une situation d'entretien d'embauche, on va, par excellence, c'est vraiment caricatural là, adapter le rôle qu'on suppose que l'employeur attend de soi. Mais au-delà de la situation d'embauche où l'enjeu était plus marqué, c'est vrai dans toutes les situations de la vie quotidienne. Et l'autre va tenter effectivement de vous identifier, d'identifier le personnage en fonction des attentes qu'il a de vous. Mais ce jeu se démultiplie à l'infini comme un système de miroir en abîme en même temps, parce que l'autre a aussi une attitude par rapport à vous, un comportement. Il se construit un rôle, un personnage, en fonction de ce qu'il imagine que vous, vous attendez de lui. Donc vous voyez, c'est un jeu permanent de miroir. Et d'ailleurs, il y a un autre grand sociologue américain du second interactionniste qui s'appelle Anselm Strauss, qui avait écrit un livre qui résume parfaitement de façon imagée ce jeu, qui s'appelle Miroirs, au pluriel, miroirs et masques. On est toujours dans un jeu de miroirs et de masques. Ce qui montre que c'est la société pensée comme théâtre, c'est-à-dire comme situation, ensemble de situations interactionnelles, ce n'est pas une caractéristique de notre période contemporaine, ça a toujours existé. Et dans la Grèce antique, c'était le même problème. Alors, cela dit, ça définirait une forme de déterminisme social où on serait obligé de jouer des rôles. Donc, ça pourrait être un processus d'aliénation. C'est-à-dire qu'en toute situation, chaque individu serait condamné à ne pas être moi, ne pas être lui-même. C'est vrai généralement, sauf que, et Goffman ne rejette pas cette idée-là, même s'il est sociologue, il reste une liberté du moi individuel. Et le sujet individuel a toujours la liberté de ne pas se conformer au jeu de rôle que la situation détermine. Et dans ce cas-là, il y a des situations qui existent où on ne joue pas le rôle qu'on attend de soi. C'est ce qu'on peut appeler des situations interactionnelles problématiques. Alors, voilà, l'autre est déstabilisé parce que on joue un personnage ou on ne joue pas un personnage du coup. On apparaît dans une attitude, une conduite, un rôle qui n'est pas conforme à ce que l'autre attendait de soi. Donc, ça crée une zone d'incertitude, d'inconnu, zone d'incertitude. Mais c'est précisément les zones d'incertitude qui sont les zones de création et de liberté, de manipulation. Alors, d'une certaine manière, si on en joue celui qui est à la source de la situation problématique, il peut le faire de façon intentionnelle pour manipuler l'autre. C'est ça que tu veux dire, oui. Sauf que ce n'est pas obligé. En fait, les neurosciences peuvent correspondre à ce que Goffman a mis en évidence. On ne va pas rentrer dans le débat des neurosciences, mais ce que j'aurais tendance à dire, c'est que les neurosciences sont, hélas, un peu vol dur. Les neurosciences sont victimes d'un scientisme. Et en gros, elles mettent en évidence, par des imageries, etc., un fonctionnement du cerveau neuronal, qu'elles identifient comme des causes. Elles restent sur les schémas de causalité. Sauf que on peut parfaitement renverser la perspective d'un
Absolument.
point de vue épistémologique et dire ce ne sont pas des causes, ce ne sont que des effets. C'est-à-dire que les
Oui, tout à fait.
neurosciences ne que des traductions chimiques, électriques des constructions, par exemple relationnelles que Goffman évoque. Donc en aucun cas les neurosciences sont le point d'aboutissement, l'explication ultime, le nec plus ultra, contrairement à ce qu'elles prétendent et ce qu'aujourd'hui notre société, qui veut toujours trouver des réponses définitives et rassurantes, tant prétend. Parce que ça rassure, effectivement, mais c'est un danger terrible parce que on va finir par penser que l'homme et le robot, c'est la même chose, quoi. Mais c'est inquiétant dans l'immédiat, à plus long terme, je crois que ce n'est pas très inquiétant. Parce qu'en réalité, ça échouera toujours. L'homme ne peut jamais se réduire à un robot. Et pour une raison très simple, c'est pour ça que c'est une question majeure, c'est la liberté. La liberté. Et justement la dimension d'infini de l'homme qui échappe au cyberborg, qui échappe au robot. Soit plongé dans des situations d'interaction, ça c'est toujours le cas. Mais par exemple, quand on a un rendez-vous avec une personne inconnue, les deux personnes se donnent rendez-vous pour des raisons professionnelles, personnelles, elles ne se connaissent pas. Il y a une situation interactionnelle qui va se jouer où chacun va avoir tendance à surmonter l'inconnu qui fait toujours peur, surmonter l'inconnu en cherchant à se conformer à un rôle qu'on suppose que l'autre attend de soi, parce que le processus d'identification mutuelle, c'est-à-dire de catégorisation, ou ce que dit encore négativement Goffman, de stigmate. Et par exemple, dans Stigmate, Goffman explique que le fou est une production sociale. Ce que le fou résulte d'une catégorisation de certains individus qui ont des conduites et des comportements qui ne sont pas conformes à ce qu'on attend d'eux. Et ce hiatus, cet écart, va amener l'environnement, autrui, à catégoriser la personne comme fou. Ou l'excentrique, ou un poète, oh, c'est un poète, lui, c'est un poète. Il y a toujours des rôles qu'on soit pris toujours dans des systèmes d'interaction et de jeu de rôle. Oui, bien sûr. La seule chose, c'est que si on pose qu'il y a de la liberté, il y a toujours la possibilité de faire un pas de côté. Un pas de côté qui va déstabiliser, qui crée encore une fois une zone d'inconnu qu'on peut utiliser à des fins manipulatrices, ça c'est clair, mais qu'on n'est pas obligé de viser dans cette intention-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de façon mécanique de se conformer au rôle que la situation attendrait de nous. C'est pas un déterminisme absolu. Il y a des marges de manœuvre. La conformité au jeu de rôle, au jeu des interactions, sont des situations de reproduction. On est dans la reproduction. Donc, si tant est qu'il y ait de la création en société, qu'il y ait de la création dans l'existence, c'est précisément dans la possibilité d'échapper, du pas de côté. C'est-à-dire de créer cette zone d'incertitude. Mais vous savez, même dans les organisations sociales les plus codifiées, par exemple, ça a été étudié par l'entreprise, où là, on est vraiment dans une organisation de jeu de rôle très codifiée, etc. On sait pertinemment qu'une organisation de travail productive, créative, c'est une organisation où il y a ces zones d'incertitude. Et ça a été mis en évidence par des sociologues, des organisations, qui pensent pourtant le côté lourd, massif. Je pense à Michel Crozier, par exemple, qui met en évidence les zones d'incertitude qui créent des marges de liberté. Et c'est précisément les marges de liberté qui existent, qui correspondent précisément au fait que on fait un pas de côté, que chacun a la possibilité de faire un pas de côté, qui permettent que l'entreprise puisse être créative et performante, pour reprendre le langage managérial, c'est vous. Et je ne veux pas refaire l'analyse de la soumission à l'autorité de l'expérience de Milgram, mais juste rapidement pour montrer qu'on peut échapper, qu'il y a de la liberté, c'est qu'en gros, donc c'est un jeu qui apparaît sous couvert de l'autorité scientifique dans un laboratoire. Il y a des volontaires, donc il y a des comédiens qui sont d'un côté d'une glace, à qui on met des électrodes, hein, tout le monde la connaît, et de l'autre côté, il y a des volontaires, étudiants, chômeurs, parce qu'on va les payer un peu, qui suivent les directives d'un homme en blouse blanche qui apparaît comme un scientifique, etc. Et donc c'est soi-disant une expérience sur les décharges électriques dans le corps d'un individu. Et donc, les volontaires innocents ont une espèce de manette qui consiste à doser la puissance des voltages qu'on envoie par électrode à la personne qui en jusqu'à à la dose mortelle. Et donc le scientifique demande aux personnes qui sont là de toujours augmenter. Et l'expérience montre qu'une majorité de gens vont aller jusqu'à une dose qui est en réalité mortelle, sachant que le comédien qui est de l'autre côté simule évidemment les effets électriques, on ne lui envoie rien du tout. Donc, 1000 grammes en tire une loi de psychologie sociale, scientifique, qui est la soumission à l'autorité. Sauf que la seule chose qui est intéressante dans cette expérience et qui prouve qu'il y a de la liberté, c'est qu'il y a, alors je ne sais plus le pourcentage, autour de 10% de personnes qui refusent à un moment donné, qui refusent parce que par rapport à leur propre conception morale, la vie apparaissant comme une valeur suprême, ils refusent d'exécuter des ordres qui iraient jusqu'à mort d'homme. Voilà. Donc ce qui prouve, l'importance n'est pas l'effet statistique, 90% contre 10%. L'important, c'est qu'il y en ait 10%, mais il y en aurait même que 3%, la question sera entière. C'est qu'il y a, il y aurait 3% qui exigent, qui se conforment à l'exigence de leur liberté morale, parce qu'il n'y a pas de morale sans liberté, c'est clair. Si on est déterminé, il n'y a pas de choix libre, donc il n'y a pas de morale possible. Et c'est ce qui se passe aussi pendant la guerre par rapport à la résistance. Les résistants, il n'y a eu qu'au début, la France résistante, c'est un mythe. Et une majorité de résistance en France, c'est en 45. C'est pas en 40, ni en 41. Mais il y a eu des individus qui ont pris le risque pour leur propre vie, au nom d'une exigence morale, on va dire. Voilà, ce qui prouve que c'est pas le fait qu'une majorité... La réflexion morale a pour principal ennemi les approches en termes de majorité. L'ennemi de la réflexion morale, c'est la majorité. La majorité, ce n'est jamais une référence. C'est une référence en termes de normes, mais là, du coup, on est dans la pure sociologie. Mais du point de vue de la réflexion morale, la majorité n'est en aucun cas une référence qui prouve quoi que ce soit. Voilà, je crois que c'est un point essentiel. Et donc, un des aspects de la résistance, c'est d'avoir cet exercice spirituel. Je vais revenir sur l'expression après. Pardon ? Mais ça touche à ce que soulevait Michel. Donc, il n'y a pas de contradiction entre ce qui est évoqué et le plan. C'est-à-dire que l'exercice spirituel qui est lié à l'expérience morale, je vais y revenir largement après à partir des Grecs, c'est précisément un exercice de conscience, un effort de... voilà. Et ça suppose, là aussi, d'échapper à une forme de déterminisme qui n'est pas un déterminisme sociologique, mais qui est un déterminisme similaire, parallèle, qui sera un déterminisme psychique, qui est que l'on peut, par un travail sur la conscience, ne pas être le jouet exclusif, d'un déterminisme qui serait l'inconscient. Ça suppose de faire une critique de la philosophie qui était très, très massivement à la mode dans les années 60-70, je dirais principalement, qui a apporté des choses, qui est le structuralisme, aussi bien en anthropologie, en linguistique, en psychanalyse, etc. C'est-à-dire que ça concerne aussi bien Lévi-Strauss que Roland Barthes sur les textes, que Benveniste d'une certaine manière, ou Jacobson pour la linguistique, que Lacan pour la psychanalyse. C'est en gros, si l'on considère qu'il n'y a pas de sujet, c'est ce que ça, que Foucault a appelé la mort de l'homme, qui est la conséquence de la mort de Dieu. J'y reviendrai après. Donc ça part de Nietzsche. Mais Foucault, son schéma, Foucault fraye avec le structuralisme, mais n'est pas un proprement parler, un structuraliste. Hein. Bon, je ne développe pas ça maintenant. Et Foucault dit, bon, il y a la mort de Dieu, mais la conséquence de la mort de Dieu, c'est la mort de l'homme. Et la mort de l'homme, il signifiait par là le triomphe de la pensée structuraliste, en fait. C'est-à-dire, la pensée structuraliste, c'est la même chose que ce que dit Goffman, d'une autre manière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet, d'une certaine manière, humain, parce qu'on n'est qu'un effet de structure. Effet de structure psychique, de structure sociale, de structure anthropologique, de structure symbolique, de structure linguistique. Et la meilleure formule qui résume ça, c'est « je ne peux pas dire « je parle ». En fait, la seule chose que je puisse penser, c'est « ça parle en moi ». Ça parle en moi, le « ça » étant précisément cette instance qui renvoie à ce qui est le registre qui échappe à la conscience, l'inconscient, disons-le clairement, quoi. Ça parle en moi. Ou je ne peux pas dire « j'agis ». Non, ça agit en moi, c'est-à-dire que mes comportements sociaux ne sont qu'un effet de structure. Ce qui rejoint ce que dit aussi, vous connaissez la formule courante de la sociologie des organisations, c'est la fonction qui crée l'organe. C'est-à-dire que j'ai une fonction de PDG, donc forcément, je deviens un être PDG. Le fondateur de la sociologie française a forgé dans un concept qui est l'anomie, anomie. Anomie, c'est encore une fois deux mots grecs, a, privatif, absence de, nomie, c'est nomos en grec, ça veut dire loi, ça veut dire norme. C'est l'absence de cadre, l'anomie. L'absence de loi, l'absence de cadre, de référence. Voilà. Et Durkheim a montré de façon très, très juste que une des causes majeures, par exemple, du suicide, c'est une situation d'anomie. C'est-à-dire l'absence de tout cadre est une situation qui favorise les comportements de suicide. Et par exemple, on le trouve très clairement dans la logique psychique des drogués, par exemple, des toxicos. C'est un philosophe que j'aimais bien, un ami philosophe que j'aimais bien, il a été décrié par la suite, il a eu des positions pas toujours justes vers la fin de sa vie, qui était André Glucksmann. Et il prenait le paradoxe qui est la même chose, qui est suivant dans la formule « Désobéis-moi, dit le père à son fils. » C'est la même chose qu'il est interdit d'interdire. « Désobéis-moi, dit le père à son fils. » On crée une situation où le fils est foutu. Parce que si le fils désobéit au père, c'est qu'il lui obéit. Mais s'il obéit au père, c'est qu'il désobéit. Mais s'il désobéit, c'est qu'il obéit. Vous voyez, il y a un paradoxe qui décrit parfaitement, d'un point de vue logique, l'impasse complète dans laquelle l'interdit d'interdire, comme injonction, met l'individu. Le fils, par exemple, par rapport au père, ou l'individu par rapport à la société. Et le problème, c'est que on a tué la réflexion sur la morale à cause de la juste remise en cause du moralisme normatif. Je poursuis quand même le texte parce qu'il faut en finir. Christian est un caméléon, il cherche à cerner les attentes de l'environnement. Et en même temps, Christian se pose, un honnête homme, il se pose des questions auxquelles nous sommes tous confrontés, la prise de responsabilité, la confiance en l'autre, la fiabilité, ainsi que la conduite morale sur le plan individuel. Et lorsqu'il se trouve face à un dilemme, ses actes sont en contradiction avec les valeurs morales qu'il défend. Christian incarne un véritable paradoxe, comme la plupart d'entre nous. On pourrait dire comme nous tous. À la fin du film, donc c'est toujours la note d'intention écrite par le réalisateur, hein, je rappelle que c'est pas une analyse extérieure au film. À la fin du film, on doit se demander s'il a tiré une leçon de ce qui s'est passé. Dans The Square, un jeu d'acteurs réaliste et intimiste s'impose. la relation affectueuse entre Christian et ses filles, pom-pom girl, oui, parce qu'il est séparé, divorcé, il a deux filles qui sont pré-ados, ados, voilà, constitue le cœur émotionnel du film et dénote par des images concrètes l'idée d'une quête d'utopie. En effet, les fillettes s'épaulent les unes les autres et font preuve d'un véritable esprit d'équipe où chacune d'entre elles contribue équitablement à la réussite du groupe. Voir une petite fille de 10 ans effectuer un saut périlleux en comptant sur ses camarades pour la rattraper, est-ce que c'est une fête du club de majorettes dans lequel ils sont, hein, pour la rattraper, est également une manifestation visuelle du rôle de la confiance en l'autre. On le voit bien, et même des analyses socio-économiques le montrent, hein, c'est que même la pire des sociétés basées sur l'intérêt économique, l'égoïsme économique, c'est-à-dire où chacun cherche à optimiser son intérêt au détriment des autres. Même cette pire de société, pour fonctionner, a besoin d'une dose de confiance. Parce que si la défiance est telle vis-à-vis à l'autre, on ne contractualisera jamais de marcher. Parce qu'on aura toujours la peur que l'autre nous roule dans la farine. Donc, ça stoppe. Donc, la confiance, qui est une catégorie morale, est nécessaire, même si on se place dans la pire logique de l'intérêt économique égoïste. La concentration et la bonne humeur des pom-com girls illustrent la meilleure facette de la société américaine, un, entre guillemets, esprit d'équipe, résultant de la méfiance des Américains envers l'État, qui sait. La justice peut-elle faire le bonheur? C'est la question, et on reviendra sur la question du bonheur après. Le parcours de Christian illustre les deux sources socratiques de justice. Ça, c'est intéressant. Ça. Le contrat social, et on voit là, Östlund a parfaitement compris la source platonicienne de Rousseau, et l'éthique individuelle. Il faut marcher sur les deux pieds. On reviendra sur cette question. Il faut un contrat social. Je renvoie à Rousseau pour qu'une société puisse être juste. C'est-à-dire qu'il faut une loi. Il faut une loi. Où l'on redécouvre, contre l'ultralibéralisme économique et contre l'ultralibertarianisme. C'est-à-dire contre la philosophie libertaire, radicale, et contre la philosophie économique libérale, on redécouvre l'importance de la loi, qui n'est pas une entrave à la liberté individuelle, mais qui est garante de la justice. La loi, là, pour le moment, et chez Rousseau, c'est aussi le cas, on n'entend pas dans un sens normatif juridique, d'abord on l'entend dans un sens moral. Moral et social, quoi. Mais cela dit, et je renvoie un article de Jean-Claude Milner dans Le Monde d'il y a quelques années, où il montre qu'il faut avoir une réflexion aujourd'hui qui réhabilite la question de l'institution. Ça va de l'État jusqu'aux petites institutions. C'est-à-dire une institution, c'est un cadre défini par un contrat en regard d'une loi. Et c'est vrai qu'on est dans un monde qui a tendance à se méfier à l'extrême de toute forme d'institution, a fortiori l'État. Là, aux États-Unis, il faut prendre au sérieux, au-delà du clown que la société américaine a élu, la figure de Trump. Parce que Trump incarne cela, incarne cette utopie. C'est une utopie, qui est une utopie alors très fortement marquée aux États-Unis par rapport au mythe américain. Une utopie, mais je rappelle que le mythe américain n'est pas sans rapport avec les socialistes utopiques français et européens. Je rappelle que beaucoup de villes américaines ont été constituées par des pionniers qui étaient des fourriéristes, des anarchistes, des saint-simoniens, des proudhoniens du XIXe siècle, qui ont émigré aux États-Unis considérant que c'était une société neuve, une page blanche et qui pourrait créer une société idéale. Hein. Donc, il y a une utopie, et c'est pour ça que l'idéologie dominante aux États-Unis qui a mis Trump au pouvoir est une idéologie ultra-libérale, mais ultra-libertarienne. Et l'idée, par exemple, qu'il ne faille pas interdire le fait que la liberté de posséder des armes corresponde à cette idéologie, très clairement. L'État, et quelque institution qu'elle soit, ne peut pas interdire ma liberté de posséder une arme. Et ça renvoie à cette mythologie qui est une utopie du Far West. Ça, c'est le contexte américain, mais qui est plus largement un contexte global, hein, société américaine. Et on voit que cette utopie qui prédomine aujourd'hui crée une situation anomique, des plus dangereuses. Il y a une impasse. Et donc, je crois qu'il y a une réflexion qui renvoie à une exigence morale de repenser une positivité possible de l'institution et de la loi. Comme un cadre, non pas qui s'opposerait à la liberté, mais un cadre qui permettrait la liberté et donc la justice. C'est complètement lié. Je rappelle que fascinus, en latin, c'est Quignard qui l'a bien montré, c'est le sexe masculin. C'est Quignard dans un livre qui montre très bien ça. Oui, c'est ça aussi. C'est le même mot. Et c'est là qu'on voit le danger, c'est-à-dire que l'émotion, le fascinus, la fascination qui est liée à l'émotion, c'est précisément le ressort, et c'est ce que veut dire Östlund, c'est le ressort qui, comme par hasard, a été utilisé par le nazisme et le fascisme. C'est le ressort plus largement de la propagande. Parce que l'émotion fait que tu... Émotion, ça veut dire mouvement en dehors de soi, complètement. C'est-à-dire que, du coup, c'est le mouvement, le processus par lequel on devient aliéné. Et quelqu'un qui est aliéné, c'est quelqu'un qui ne maîtrise plus quoi que ce soit de ses actes. Mais on reviendra sur cette question qui a un nœud, effectivement, de l'émotion, c'est-à-dire plus largement des passions et du rapport entre passion et morale, parce que c'est un nœud essentiel. Mais on y reviendra parce que, précisément, c'est un point essentiel qu'ont abordé les philosophes grecs anciens. Le rapport entre morale et passion, le rapport entre morale et sens, sensible, émotion, etc. Une seule image, donc il développe un tout petit peu la question d'Elan. Une seule image a soudainement changé l'opinion de nombreux journaux sur les demandeurs d'asile en Europe et dans le monde entier. Elle a montré le pouvoir que peut exercer une bonne photo dès lors qu'elle suscite suffisamment le scandale et l'émotion pour interrompre le déferlement incessant d'informations et d'images auxquelles nous faisons face. Mais surtout, elle est la preuve que nous avons besoin d'une image pour être touchés, car de nos jours, les médias défendent rarement un point de vue. En effet, les articles peu scrupuleux ayant recours à des images racoleuses sont désormais la norme et sont diffusés partout à travers le monde via les réseaux sociaux. Une seule image, donc il développe un tout petit peu la question d'Elan. Une seule image a soudainement changé l'opinion de nombreux journaux sur les demandeurs d'asile en Europe et dans le monde entier. Elle a montré le pouvoir que peut exercer une bonne photo dès lors qu'elle suscite suffisamment le scandale et l'émotion pour interrompre le déferlement incessant d'informations et d'images auxquelles nous faisons face. Mais surtout, elle est la preuve que nous avons besoin d'une image pour être touchés, car de nos jours, les médias défendent rarement un point de vue. En effet, les articles peu scrupuleux ayant recours à des images racoleuses sont désormais la norme et sont diffusés partout à travers le monde via les réseaux sociaux. Bon, je termine là rapidement. The Square aborde ce sujet d'une terrible actualité avec légèreté en ayant recours à l'absurde. La vidéo YouTube manifestement truquée et créée par les experts en marketing, donc c'est le fameux film qu'ils ont produit là, où il y a cette gamine qui explose, pour assurer la promotion des valeurs morales de l'exposition, illustre combien les médias influencent notre perception du monde et nous poussent à mal le comprendre. Je trouve essentiel lisez les effets, car je suis convaincu que l'image vidéo est le moyen d'expression le plus efficace que nous ayons jamais eu et par conséquent le plus dangereux. Pour autant, le cinéma nous offre un accès privilégié au reste du monde. Il y a d'innombrables choses que nous n'avons jamais faites nous-mêmes, mais dont nous avons pu faire l'expérience mentalement grâce au film. Ceux-ci peuvent, par exemple, nous inciter à penser de manière critique aux conventions et à ce que nous prenons pour argent comptant. Je suis fou de joie lorsque quelqu'un me dit qu'il a passé la nuit entière à discuter de mon film avec des amis, car cela signifie que ce dernier a amorcé un changement qui ne se cantonne pas qu'à la salle de cinéma. Ruben Östlund, texte écrit en mai 2017. Je ne commande pas la fin parce que ça sera un objet en tant que tel du rapport au cinéma et du rôle du cinéma, ça nous entraînerait ailleurs. Mais voilà un petit peu ce que l'on peut tirer à partir de cette note d'intention de ce réalisateur de The Square, de l'actualité de notre question sur la morale. Mais on peut en parler pareillement pour la littérature. Hein. Oui, le théâtre, le cinéma, les arts en général d'ailleurs. Ce qui veut dire simplement, c'est que les médias ont donné une puissance inégalée aux effets de communication. Ah, une puissance beaucoup plus grande. Une puissance plus grande pour deux raisons. D'une part, quantitativement, ça touche immédiatement beaucoup plus de monde. Et l'autre, c'est la rapidité. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, par exemple, à la fin du XVIIIe, quand il y a le premier grand événement catastrophe mondiale qui est un effet qui touche, qui perturbe la conscience, un effet d'opinion publique et d'émotion publique, c'est le tremblement de terre de Lisbonne. C'est la première fois où il y a un effet médiatique, si on peut dire. C'est la fin du 18e. Et ça a créé un débat entre intellectuels. Vous savez que Voltaire et Rousseau se sont fâchés sur le sujet, quoi. Mais on peut mesurer l'énorme différence de puissance entre cette époque-là et aujourd'hui. L'effet médiatique à l'époque, ça ne touche que très peu de gens. Ça touche des gens partout en Europe. Mais très peu de gens qui avaient les moyens d'être informés de la catastrophe qui a été le tremblement de terre de Lisbonne, qui a fait des milliers de morts. Et en plus, les gens l'ont su à retardement de façon importante.
Oui, très.
C'est en ce sens-là qu'il y a deux différences fondamentales. C'est l'effet de masse qui n'existait pas à l'époque. Et l'effet de rapidité, de vitesse, d'instantanéité. Aujourd'hui, c'est instantané. Le monde entier sait instantanément ce qui a pu se passer quelque part. Et ça produit un effet de puissance. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est que la vitesse, l'instantanéité supprime la durée, donc supprime le temps possible de la réflexion. Et ça, l'un recouvre l'autre en permanence, oui. Et le gros problème, c'est en ce sens-là que ça produit un effet de reproduction sociale. Moi, il se trouve que quand j'ai le temps, je regarde deux journaux télévisés. Et puis, il se trouve qu'il y a deux journaux qui se succèdent, c'est le National France 3 et le National TF1. J'analyse, et 8 fois sur 10, c'est les mêmes chapitres et la même hiérarchie des chapitres. Non, mais ce qui veut dire que l'effet de reproduction sociale est bien là parce que il y aurait eu une réelle pluralité. Mais il n'y en a plus. C'est-à-dire que France 3 et TF1, dont on peut penser qu'ils sont différents, ont la même hiérarchie des titres, la même sélection des titres, et avec la même hiérarchie. Hier soir, je vous prends l'exemple. Hier soir, le titre en une sur les deux journaux, c'était, je vous le donne en mille, l'ouverture du zoo pour voir le panda au Québec. Ça a été le premier titre sur les deux chaînes.
Quoi.
Et en deux, pour les deux chaînes, ça a été le premier rapport d'enquête par rapport au drame de l'autocar de Mias. Là. Oui, mais c'est vrai. Mais en même temps, là, moi, je me situe sur le plan de l'analyse du réalisateur. C'est-à-dire qu'en gros, son analyse, c'est d'essayer de voir les forces dominantes qui traverse la société et à quoi l'individu qui veut avoir un comportement conforme à une exigence morale se heurte. Les tendances dominantes, les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est pas le pluralisme. On le voit de plus en plus, les réseaux sociaux, c'est les fake news. J'introduis juste le sujet. Et en plus, la meilleure preuve que ce n'était pas mieux avant et qu'il y a une permanence, une atemporalité, une ahistoricité de ces phénomènes humains, au fond, c'est qu'on va retrouver une similitude complète par rapport à la période qui va nous intéresser maintenant, la période hellénistique. Ce que l'on appelle la période hellénistique, donc j'introduis cela très rapidement. Il s'agit de la Grèce antique. On distingue, pour le dire très vite et schématiquement, parce qu'il ne s'agit pas de faire l'histoire de la Grèce antique, ça nous dévierait. Il y a deux périodes dans la Grèce antique. Il y a l'âge classique, la période classique, dont certains ont pu avoir la nostalgie à l'époque. Et ensuite, la période qui va suivre, c'est la période hellénistique. L'âge classique, c'est l'âge de Périclès, vous voyez, les grands... Le siècle, c'est l'époque du rayonnement des cités grecques et en particulier d'Athènes. Athènes s'impose comme le modèle même de la société. Philosophiquement, ça correspond à l'âge de Socrate, de Platon, et puis ça se termine vraiment, c'est vraiment la fin, avec Aristote. Pour situer juste la fin, par exemple, Aristote est né en moins 384, donc c'est le 4e siècle, avant notre ère, et meurt en moins 322, d'accord ? Succède donc la période hellénistique, donc qui vient d'Hélène, hein, et Hélène, le prénom Hélène, c'est la figure d'Athènes, de la Grèce. En grec, c'est pas Grécos ou je sais pas quoi, ça se dit Hélénos. Donc la période hellénistique, c'est la période qui suit. Donc ça va être une longue période parce qu'en fait, on assimile à la période hellénistique aussi bien la période qui va du 3e siècle, c'est en gros des moins 299, si vous voulez, jusqu'à zéro, et aussi les premiers siècles de notre ère, c'est-à-dire la période romaine. C'est une période de rupture complète dans l'histoire de la société grecque et aussi dans la philosophie. Et c'est de ce point de vue-là une période de rupture qui revêt des caractéristiques très similaires sur des aspects essentiels à notre période actuelle. Et c'est ça qui est intéressant. Or, pourquoi s'intéresser à cette période-là? Non seulement parce qu'elle correspond à notre période, période de rupture, désorganisation, mutation, démoralisation, j'en préciserai les caractéristiques, mais c'est surtout que c'est la période où naissent deux grands courants de philosophie morale que l'on va explorer de près en tentant d'y trouver des méthodes, des outils pour penser la morale aujourd'hui. Et ce n'est pas un hasard si c'est cette période qui fait naître ces courants-là, qui fait naître une préoccupation morale majeure. C'est que c'est une période qui, comme la nôtre, est complètement déstabilisée. Et les deux grands courants donc de philosophie morale, qui sont des courants grecs d'abord et romains ensuite, mais romains hellénistiques, c'est-à-dire qui pensent en grec, même si certains vont écrire en latin, c'est l'épicurisme et le stoïcisme. Donc on s'arrêtera longuement sur ces deux courants parce qu'ils sont passionnants. Et ils constituent les deux pôles opposés, en plus, de ce qu'est la philosophie morale. Sur plein d'aspects, on va voir comment ils s'opposent. Et ce qui est intéressant, c'est de penser les deux à la fois. Alors, L'épicurisme, encore un des points de repère chronologique. L'épicurisme doit son nom au fondateur de cette école. Ce sont des écoles, si vous voulez, des écoles de philosophie. Mais je préciserai après ce qu'il faut entendre par école dans la Grèce antique. Hein. Épicure, ses dates, c'est moins 342. Donc, vous voyez, il est né que Aristote n'était pas encore mort. Quand Aristote meurt, Épicure a 20 ans. Et il meurt en moins 271. Le stoïcisme. Alors, le stoïcisme ne doit pas son nom à un personnage qui s'appellerait stoïque. Il doit son nom au mot grec stoa, S-T-O-A, stoa, qui en grec veut dire un portique. Et pourquoi ? Parce que l'école qui a été créée là se retrouvait près du portique. Le portique, c'est une espèce de grande porte, vous savez, hein. Mais différent, c'est plus rudimentaire qu'un arc, hein, qu'un arc de triomphe. Hein. De même que l'école d'Aristote s'appelle l'école des péripatéticiens, parce qu'il déambulait sur le trottoir, en quelque sorte. D'où le fait que ça soit le même mot pour désigner ceux qui font le trottoir. Voilà. Et l'école de Platon, c'était les académiciens, parce que tout simplement, ils étaient créés près de ce bâtiment qu'était l'académie. Alors, les stoïciens, donc, naissent de... Le fondateur, c'est le philosophe qui est méconnu parce qu'en réalité, on a peu d'accès à des textes directs de lui, de sa première main. On n'a que des fragments et après c'est indirect par d'autres qui ont commenté ou recopié ce qu'il disait. C'est Zénon de Citium ou Zénon de Kition. Dans cette période hellénistique se poursuit et va se poursuivre longtemps l'école de Platon. C'est-à-dire ceux qui sont dans le sillage de Platon, l'académie. Hein, cette école, elle se poursuit bien après la mort de Platon. Et bien au-delà de Platon, d'ailleurs, et jusqu'à la fin de l'Antiquité, cette école, ça sera les néo-platoniciens, d'accord ? Donc ça se poursuit jusqu'au 5e siècle de notre ère. Damasius, par exemple, Damasius ou Damasios, Damasios en grec, Damasius en latin, ça, c'est celui qui était de Damas, la ville syrienne. Donc Damasius, c'est le 5e siècle de notre ère. Au moment de l'Empire romain décadent. C'est le dernier grand philosophe néoplatonicien. Donc, c'est des écoles qui durent longtemps, quoi. Les aristotéliciens, donc les... Alors, l'autre nom aussi des péripatéticiens, c'est le lycée, c'est les lycéens, l'école du lycée. Ça se poursuit, les aristotéliciens, l'école des péripatéticiens se poursuit aussi très largement. Il y a donc ces nouvelles écoles qui naissent dans la période hellénistique, l'épicurisme et le stoïcisme. Ces deux écoles qui mettent l'accent surtout sur la philosophie morale, la question de la morale, qui durent cinq siècles, véritablement. C'est-à-dire qu'en clair, si je prends par exemple le stoïcisme, une dernière grande figure du stoïcisme, c'est ce qu'on appelle le stoïcisme impérial, c'est-à-dire qui se développe pendant l'Empire romain, donc bien après la République, donc la dernière période romaine, c'est par exemple Marc Aurèle qui est un empereur. L'empereur Marc Aurèle, Sénèque, Cicéron. Donc Marc Aurèle, c'est plus 121 et il meurt en 180, donc au second siècle. Des courants de pensée, des écoles qui ont une puissance considérable, quoi, qui durent de façon vivante 5 siècles. Pour être complet, je situerai encore 2 autres courants qu'on ne développera pas parce qu'on ne pourra pas s'en sortir sauf de façon allusive. Mais comme c'est des noms qu'on connaît, c'est le scepticisme, les sceptiques. Alors, le scepticisme, un nom qui vous parlera, c'est enfin, je ne sais pas s'il vous parlera, c'est Piron. P-Y-2-R-H-O-N. Il n'est pas si connu que ça. Ce que ça a donné un courant, notamment politique, de philosophie politique, qu'on appelle le pyrrhonisme, en fait. Donc, Piron, c'est une des grandes figures du scepticisme. Donc, c'est moins 360, moins 275. Donc, vous voyez, tous ces courants sont, d'une certaine manière, parallèles, sont contemporaines les unes des autres, quoi. Alors, le pyrrhonisme, le scepticisme, prône, alors c'est en ce sens-là qu'il y a un rapport avec ce qu'on appelle sceptique aujourd'hui, prône une morale, une éthique, qui est celle de l'indifférence aux choses et au monde. C'est-à-dire, en gros, je résume ça rapidement parce qu'on ne développera pas ça par la suite. En gros, toutes choses sont indifférentes les unes aux autres. Donc il n'y a pas de hiérarchie de valeurs, par exemple. C'est. Et donc ça suppose d'avoir une conduite de vie qui cultive l'indifférence et l'absence de passion aux choses, au monde. Alors, des philosophies orientales, on pourrait dire qu'il y a Mais on pourrait faire un lien. Et alors, la dernière école que je citerai, qui est importante, qui est aussi dans la même période, c'est pareil, c'est un courant qui a donné lieu à un adjectif contemporain qui corrompt le sens, c'est le cynisme. Les cyniques. C-Y-N-I-Q-U-E. Non, les pré-socratiques, véritablement, c'est Parménide et Héraclite, au sens...
Ils sont cyniques ?
Les cyniques, non, c'est Diogène. Et cynisme, ça vient du grec kyros, qui donne le mot chien, qui est le mot chien, oui. C'est en gros, c'est parce que il se considérait vivre dans la rue, dans le plus grand dénuement complet, comme des chiens. Du coup, il aboyait, oui. Et... alors, vous savez, il vivait en fait dans un tonneau, comme une niche. Quoi. Il n'y avait pas de tonneau au sens actuel du terme.
Quand il a vu un chien.
Mais enfin, c'était quand même des contenants de vin. Dans ce sens-là qu'on peut parler de tonneau. Non. Alexandre, c'est la fin de l'époque classique. Alors, moi, je retiens jamais les dates, hein, parce que les dates. Alors, attendez. Non, c'est le 4e siècle. Avant notre ère. Alors, Alexandre, c'est moins 356, la naissance, moins 323. Il me faut caractériser cette période hellénistique, maintenant, et notamment voir le rapport avec des enjeux avec notre période actuelle, mais je ne vais pas démarrer, je crois que vu l'heure, j'attaquerai directement là-dessus la prochaine fois. Qu'est-ce qui se vit dans la période hellénistique? Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi à la fois cette période nous intéresse pour aujourd'hui, parce qu'il y a plein de similitudes d'enjeux, et pourquoi c'est cette période qui a connu la naissance de ces grands courants de philosophie morale, et notamment l'épicurisme et le stoïcisme. Voilà ce qu'on abordera. Merci. La prochaine fois.